Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Lolita Aboa, qui est lauréate du prix de la femme du numérique du concours ingénieuse de la CDEFI. Voilà qui en jette un peu, hein. Bonjour, Lolita.
Bonjour, je suis très contente d'être là.
Peut-être on pourrait préciser déjà ce qu'est la CDEFI.
Alors, la CDEFI rassemble tous les ingénieurs de France et les représente.
Donc, il y a eu au niveau national une sélection qui a été faite et vous avez été présentée comme lauréate.
Oui, pour la petite histoire, je m'étais positionnée pour élève ingénieur. Et donc, j'avais été sélectionnée parmi, on va dire, à peu près 1000 candidatures nationales. Et on a été 4 retenues. Donc, moi, j'avais quitté la cérémonie. Et en fait, j'ai été rappelée pendant que je mangeais un burger juste à côté pour me dire que j'ai gagné ce prix.
Donc, évidemment, ça fait plaisir sur le moment. Mais après, ça donne aussi des possibilités, ça ouvre des portes.
Ça ouvre des portes et de la crédibilité aussi pour porter le discours et aussi ce que je représente. Donc moi, j'en profite un petit peu pour mettre en valeur les femmes ingénieures et surtout démystifier et vulgariser ce métier, ce que je fais depuis toujours. Donc c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur.
Donc c'est vrai que les femmes en général dans les disciplines scientifiques, dans les mathématiques, dans la physique, elles ont été sous-représentées depuis longtemps. Et là, on pense que le train est pris maintenant en marche et que ça fonctionne.
Alors, ça ne fonctionne pas parfaitement. Les chiffres qui ont été communiqués pendant la cérémonie, c'était qu'il y a encore 30% de femmes dans le supérieur qui ne continuent pas dans les matières scientifiques, alors qu'au lycée, elles ont quasiment de meilleures notes que les garçons. Et donc, la question de savoir pourquoi, on sait qu'Elisabeth Borne vient de porter un projet à ce sujet. Et moi, mon avis sur le sujet, c'est qu'il y a un blocage chez les femmes, chez les jeunes filles, qui vient déjà du fait de rien que du métier d'ingénieur qui peut faire peur, qui est un concept assez flou, quelque part. On dit ingénieur, mais ça regroupe une infinité de métiers. Et il y a aussi le manque de confiance des femmes en elles-mêmes. Et d'où vient ce manque de confiance? C'est le fait que, déjà, on ne les inclut pas assez dans l'histoire des sciences. Quand moi, j'étais sur les bancs de l'école, j'ai fait un bac ES, j'ai même failli faire un bac L. Je sais que quand on parlait de maths, quand on me parlait de concepts, vous voyez, Pythagore, Thalès, quand j'arrive en école d'informatique et qu'on me parle de Yann LeCun, des premiers ordinateurs, c'est très rare qu'on mentionne un nom de femme. Et donc, je pense que quelque part, il y a une intériorisation du discours chez les jeunes filles qui est, c'est pas pour moi, ça n'a pas été créé par moi ni pour moi. Et donc, finalement, allons faire quelque chose d'un petit peu plus accessible.
En même temps, quand on voit Marie Curie, par exemple, elle a fini par être connue. Donc, il y a moyen aussi de tirer de cette expérience l'idée qu'on peut avoir sa place.
On peut avoir sa place. Pour le moment, il faut que ça vienne des femmes elles-mêmes, des jeunes filles elles-mêmes. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment ce discours de même si vous n'avez pas l'impression d'être talentueuse, d'être faite pour ça. Moi, c'était mon cas. Initialement, j'ai un parcours même littéraire. Je ne suis pas très forte en maths. Je ne suis même pas particulièrement passionnée. Je n'ai pas fait de prépa. Je n'ai pas eu de parents qui m'ont parlé des métiers d'ingénieur. Et pourtant, j'en suis arrivée là. Donc, c'est possible.
C'est une question de volonté ou d'intelligence ou les deux?
Pas du tout d'intelligence. Je pense que même moi, encore aujourd'hui, j'ai peut-être encore ce syndrome de l'imposteur. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence. D'ailleurs, qu'est-ce que l'intelligence? C'est un débat philosophique. Bon, après, est-ce que la volonté seule suffit? Je ne sais pas. Mais se donner les moyens d'y arriver, c'est-à-dire déjà la discipline, la rigueur, et se dire qu'il n'y a pas d'autre voie possible que de terminer ce qu'on a commencé dans le scientifique, une fois qu'on a osé faire le pas, c'est ce que je recommande.
Est-ce que plutôt qu'intelligence, on ne pourrait pas dire lucidité? C'est-à-dire, il y a un objet, il y a une solution à trouver, ben, on va la trouver parce qu'il y a des pistes qu'on peut imaginer et au final, on y arrive.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça a été mon cas. Le moment où moi, je rencontre les sciences, ce n'est pas parce que j'ai pensé science, c'est parce qu'il y avait une problématique que je voulais résoudre. C'était comment communiquer des informations qui sont le plus justes possible. parce qu'avant j'étais journaliste, et donc c'était voilà, comment avoir accès à de plus grandes données pour en extraire quelque chose de beaucoup plus robuste et de plus finalement pertinent. Et il se trouve que les sciences ont été une voie de réponse à cela. Donc pour toutes les jeunes filles qui ont une problématique, qui ont une volonté, un objectif, et qui à un moment rencontrent les sciences sur leur chemin, c'est ce que j'ai à leur dire, c'est ne faites pas un détour, osez affronter le monde des sciences, et il vous le rendra.
Donc l'univers de la recherche est infini, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été réalisées, il y a des données, il y a des datas. Est-ce que vous vous êtes emparé de ce qui existait déjà pour trouver vos solutions à des problèmes actuels ?
Oui, je n'ai pas encore fini, mais oui, j'ai découvert le monde des données. Et d'ailleurs, c'est ce vers quoi je veux me spécialiser, parce que je rappelle que je suis encore en dernière année d'études. Mais oui, le fait de pouvoir, via le passé, pouvoir prédire le futur et pouvoir aussi voir plus large et même trouver des causes, ou en tout cas des relations entre plusieurs événements qu'on n'aurait pas fait peut-être un main nu, je trouve que c'est splendide.
La question de l'intelligence artificielle se pose actuellement. Alors, on peut dire que c'est la pire ou la meilleure des choses. Son usage, bien sûr, est ce qui va déterminer si le potentiel de l'intelligence artificielle peut être au service de l'homme ou non.
Oui, il y a toujours cette question éternelle. Moi, je ne considère pas l'intelligence artificielle comme quelque chose de négatif. Pour moi, je le considère comme un outil, comme un couteau. Et en fait, ce couteau, soit on va s'en servir pour faire des choses utiles comme couper un gâteau, comme nous faciliter la vie, mais de manière intelligente, soit on va finalement l'utiliser pour décharger tous nos problèmes et finalement manquer, régresser dans la créativité. Et ça, ce serait quelque chose de dommage. Donc oui, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à tout prix à maîtriser, que ce soit homme ou femme. Il faut oser plonger dedans, aller regarder du côté des algorithmes pour justement être mieux prévenu des dérives potentielles.
Donc quand on interroge les intelligences artificielles basiques sur des problèmes dont on veut une solution facile, on peut trouver beaucoup de choses intéressantes, mais on doute toujours de la réalité, de l'intérêt, de la subjectivité de ce qui est proposé, voire même de l'honnêteté intellectuelle de ce qui est écrit, parce que ça vient de sources dont on ne connaît pas toujours la provenance.
Il y a les sources et il y a aussi le fait que, bien des fois, la réponse qui va nous être donnée est aussi basée sur la personne qui la pose. C'est-à-dire qu'en fonction de qui demande, il y aura une adaptation du contexte pour finalement correspondre à ce que l'utilisateur attend. Ça peut être le cas notamment pour ChatGPT il se base sur la mémoire des conversations. Et donc c'est pour ça que je dis que tout le monde doit se pencher sur la manière dont ces outils sont codés pour avoir le recul nécessaire de replacer dans un contexte toutes les réponses qui se passent et aussi pouvoir mieux habilement poser nos questions ou nos problèmes.
Donc on n'est qu'au début de cette aventure, évidemment on envisage le meilleur et le pire. Évidemment, là j'ai une revue qui s'appelle Le 1, le journal 1, et donc il a publié un spécial dictature. Donc dedans on retrouve bien sûr 1984 et on retrouve des gens qui disent que voilà, on est dans un état actuel où les risques de dictature s'amplifient et que l'intelligence artificielle, enfin, je pense par exemple à ce que Trump a proposé, c'est-à-dire vérifier tout ce qui a été publié par des étudiants qui veulent accéder aux études aux États-Unis, et tout ça, c'est déjà sur Internet. Donc la compilation de tout ça, j'imagine qu'elle pourra être faite par l'intelligence artificielle sur des datas qui appartiennent aux opérateurs, etc. Donc il y a à la fois ce risque qui est présent, mais à la fois ce potentiel qu'il serait dommage d'ignorer ou de négliger.
De toute façon, on ne peut plus l'ignorer. Peut-être qu'on a essayé pendant quelques années, surtout en Europe, mais si nous, par exemple, on l'ignore en Europe, ça prend de le large, que ce soit en Asie ou en Amérique. Donc il faut au contraire aller au-devant du sujet. Et moi, j'appelle plutôt à, on va dire, une conscience collective et individuelle, que chaque individu qui utilise ces outils fasse vraiment l'effort de comprendre comment cet outil a été codé, quels sont ses biais, quelles sont ses limites, et d'avoir du recul à chaque application et utilisation de ces outils.
Est-ce que donc le grand public peut faire confiance aux ingénieurs pour valider ou remettre dans l'esprit que vous venez de mentionner, de bienveillance et de service du public, tout ce qui est produit actuellement et dont on ne sait pas trop ce qui est le bien, le mal. Enfin, on est en ce moment quand même sur des choses assez bizarres où le mal et le bien réinterviennent comme notion qu'on avait un peu perdu de vue.
La notion de bien et de mal, c'est quelque chose qui est défini en commun par la société. Et c'est vrai que ces IA portent des questions éthiques au-devant de la scène. Et donc, logiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est tous s'asseoir autour d'une table et discuter sur quelles sont les nouvelles normes, qu'est-ce qu'on accepte ou pas, et qu'on s'accorde à l'échelle internationale. Bon, c'est quelque chose d'un petit peu utopiste. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, pour moi, il ne faut absolument pas faire confiance aux ingénieurs uniquement. Chacun a son rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que déjà, un ingénieur, lui, il est responsable du développement. Mais c'est la société pour laquelle il travaille qui protège ou pas la manière dont a été développé son outil. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe en interne, un biais quelconque, l'utilisateur ne sera pas forcément au courant, ni même la boîte, avant de faire une évaluation. Je pense à, par exemple, Amazon qui s'était rendu compte qu'il y avait un biais genré dans ses processus d'emploi. Et donc, il faut qu'il y ait des outils, enfin des personnes externes, et que chaque personne teste de son côté et essaye de contribuer à son niveau. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, en tant que femme du numérique, j'ai été élue femme du numérique, mais tout le monde doit être impliqué dans le numérique à son petit niveau pour justement ne pas faire confiance uniquement à une personne externe comme un ingénieur, même si j'en suis une.
Alors Lolita, vous êtes à Polytech Lille. Dans cette université de Lille, il y a énormément de personnes qui travaillent dans des domaines différents. Est-ce qu'on peut les associer à la validation ou à la réflexion sur une certaine éthique? Je pense aux philosophes, aux sociologues et bien d'autres, même à des historiens qui peuvent aussi avoir la mémoire sur des choses qui se sont passées et qu'on ne voudrait pas voir se reproduire. Donc voilà, l'IA, il faut quand même s'en méfier, s'en emparer et fixer un cadre éthique. Et peut-être la communauté justement d'une université, la communauté universitaire, peut réfléchir et peut-être mettre des bornes.
Ah oui, pour moi, j'appelle tout le monde à réfléchir, même au-delà même du cadre des ingénieurs. C'est que c'est vraiment aussi en fonction de l'expérience que chacun a avec ses IA. Il faut aussi, ça commence à se faire, qu'on enseigne aux gens à comment s'en servir plutôt que d'en avoir peur, parce que l'ignorer n'est que remettre le problème à demain.
Est-ce que pour vous, un événement sur l'IA et la façon de s'en emparer avec plusieurs acteurs de la communauté scientifique, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être réalisé sur une université comme Lille, faire un gros événement avec ce focus-là.
Ah oui, ça pourrait être très intéressant. Un événement, s'il est concret, c'est-à-dire avec un objectif clair de peut-être porter à une autorité supérieure les recommandations, en tout cas les pensées et le positionnement des scientifiques de Lille pourrait être très intéressant et envisagé, oui.
On peut compter sur vous?
Moi, je serai là si ça a lieu.